Chapitre 21, le nid de la colombe. Nos lecteurs se rappellent peut-être qu'avec un accent de charmante galanterie, M. de Marande, avant de rentrer dans son cabinet où l'attendaient les nouvelles des Tuileries données par Salvatore, avait demandé à sa femme la permission d'aller, après la clôture du bal, lui faire une visite dans sa chambre à coucher. Il était 6 heures du matin, le jour commençait à paraître. Les dernières voitures ont cessé de faire retentir le pavé de la cour de l'hôtel. Les dernières lumières s'éteignent dans les appartements. Les premiers bruits de Paris s'éveillent. Il y a un quart d'heure que Madame de Marande est retirée dans sa chambre à coucher. Il y a 5 minutes que Monsieur de Marande a échangé les dernières paroles avec un homme dont l'allure militaire se trahit sous son habit bourgeois. Ses dernières paroles ont été « Que son Altesse royale soit tranquille, elle sait qu'elle peut compter sur moi comme sur elle-même. » Derrière cet homme qui est parti rapidement, emporté par 2 vigoureux chevaux dans une voiture sans armoirie, conduite par un cocher sans livrée et qui a disparu au coin de la rue de Richelieu, les portes de l'hôtel se sont fermées. Maintenant que le lecteur ne se préoccupe point trop de ces cloisons de fer et de chêne qui viennent de s'interposer entre lui et les maîtres de cette splendide maison dont nous avons éclairé quelques parties, notre baguette de romancier n'a qu'à se lever et les portes les mieux fermées se rouvriront devant nous. Usons donc de ce privilège et tournons du bout de cette baguette la porte du boudoir de Madame Lydie de Marande. Sésame, ouvre-toi. Vous le voyez, voici la porte ouverte sur ce charmant boudoir bleu céleste où vous avez, il y a quelques heures, entendu Carmélite chanter la romance du saule. Tout à l'heure, nous aurons à ouvrir devant vous une porte bien autrement terrible, celle de la cour d'assises. Mais permettez qu'avant de mettre le pied dans cet enfer du crime, nous entrions nous reposer un instant et prendre des forces dans ce paradis d'amour qu'on appelle la chambre de Madame de Marande. Cette chambre était, pour ne pas se trouver en contact immédiat avec le boudoir, précédée d'une espèce de vestibule ayant la forme d'un dé immense. Ce vestibule, qui faisait en même temps une salle de bain, était éclairé par le plafond avec des verres de couleur formant des dessins arabes. Ses murailles et son plafond, moins l'ouverture destinée à laisser pénétrer un jour qui ne devait jamais aller au-delà d'une demi-obscurité, était tendue d'une étoffe toute particulière, d'un ton neutre flottant entre le gris perle et le jaune orange. Le tissu semblait fait de ces plantes d'Asie dont les Indiens extraient les fils textiles pour en fabriquer cette étoffe connue chez nous sous le nom de Nankin. Les tapis étaient des nattes de Chine, douces comme l'étoffe la plus flexible, et s'harmonisaient admirablement de couleur avec les tentures. Quant aux meubles, ils étaient de laque de Chine avec de simples filets d'or. Les marbres étaient blancs comme du lait, et les porcelaines qu'ils supportaient, de ce bleu turquoise tout particulier à ce que, en termes de bric-à-brac, on appelle du vieux Sèvres pâte tendre. En mettant le pied dans ce doux réduit, mystérieusement éclairé par une lampe de verre de bohème suspendue au plafond, on se fût cru à 100 lieues de la terre, et il eût semblé que l'on voyageait dans un de ces nuages orangés, pétris d'azur et d'or, dont Marilatte franchait ces paysages d'Orient. Une fois parvenu à ce nuage, il était tout simple que l'on entrât dans le paradis, et c'était bien le paradis, en effet, que cette chambre où nous conduisons le lecteur. Aussitôt la porte ouverte, ou, pour parler plus exactement, aussitôt la portière soulevée, car s'il y avait des portes, l'art du tapissier les avait rendues invisibles, aussitôt la portière soulevée, le premier objet qui frappait les yeux, c'était la belle Lydie, rêveusement étendue dans le lit qui occupait le côté droit de la chambre, un coude appuyé ou plutôt enfoncé dans un oreiller qui semblait de gaze, et tenant de l'autre main un livre de poésie relié en marocain, livre que peut-être elle avait le plus grand désir de lire, mais qu'elle ne lisait pas, tant elle semblait pleine d'une autre pensée que celle de la lecture. Une lampe de porcelaine de Chine brûlait sur une petite table de boule et éclairait, à travers un globe de verre de bohème rouge, des draps de lit d'une teinte rosée, pareille à celle qui se répand au lever du soleil sur la neige virginale de la Jungfrau ou du Mont Blanc. Voilà ce qui attirait d'abord les yeux. Et peut-être essayerons-nous tout à l'heure de rendre le plus chastement qu'il nous sera possible l'impression produite par ce ravissant tableau. Mais auparavant, nous nous sentons entraînés, comme malgré nous, à décrire le reste de l'habitation. L'Olympe d'abord, puis la déesse qui l'habitait. Qu'on imagine une chambre, ou plutôt un nid de colombes, assez grande tout juste pour dormir, assez haute tout juste pour respirer. Elle est étendue, plafonds et murailles, de velours nacara, ayant des reflets de grenats, d'escarbouches et de rubis, aux endroits que leur saillie mettait en lumière. Le lit en tenait presque toute la longueur, et à peine si à chaque extrémité du lit pouvait tenir une étagère en bois de rose, chargée des plus délicieux brimborions de Saxe, de Sèvres et de Chine, qu'on avait pu recueillir chez Montbrault et chez Gansberg. En face du lit était la cheminée, tout habillée de velours comme le reste de la chambre. Aux deux côtés de cette cheminée étaient deux causeuses qui semblaient recouvertes avec des plumes de la gorge d'un colibri, et au-dessus de chacune de ces causeuses une glace dont le cadre était formé de feuilles et d'épis de maïs doré. Asseyons-nous sur une de ces causeuses et donnons un coup d'œil au lit. Le lit était de velours nacara, capitonné et sans un seul ornement. Seulement, sa riche nuance ressortait par l'encadrement au milieu duquel il apparaissait. Cet encadrement était un chef-d'œuvre de simplicité, et l'on s'étonnait en le voyant qu'il y eût un tapissier assez poète, ou moins poète, assez tapissier, pour arriver à un pareil résultat. Il se composait de ces grandes pièces d'étoffe d'Orient que les femmes arabes appellent des haïks. Ces haïks étaient de soie, à bandes alternées bleues et blanches. Leurs franges étaient les franges même du tissu. Aux deux extrémités du lit, deux larges pièces de cette étoffe tombaient verticalement et pouvaient se draper le long de la muraille à l'aide d'embras alzériennes tressées de soie et d'or avec des anneaux de turquoise. Le fond du lit était une immense glace prise dans un cadre de velours pareil au lit et reposant non pas sur la muraille mais sur un troisième haïk. Au niveau supérieur de la glace, l'étoffe, froncée en mille plis, s'élançait et allait par une pente douce rejoindre une grande flèche d'or autour de laquelle elle s'enroulait en deux gros bouillons. Mais la merveille de cette chambre était ce que reflétait la glace de ce lit, évidemment destiné à faire disparaître les limites de l'appartement. Nous avons dit qu'en face du lit était la cheminée. Au-dessus de cette cheminée, chargée de ces mille futilités délicieuses qui composent le monde d'une femme, s'étendait une serre dont on n'était séparé que par une glace sans tain et qui au besoin pouvait rentrer dans la muraille et mettre ainsi en communication la chambre de la femme avec la chambre des fleurs. Au milieu de cette petite serre, surmontant un bassin dans lequel jouaient des poissons de Chine de toutes les couleurs et où venaient s'abreuver des oiseaux de pourpre et d'azur, gros comme des abeilles, s'élevait une statue de marbre de Pradier, de miniature. Certes, cette petite serre était à peine de la grandeur de la chambre, mais par un miracle d'arrangement, elle paraissait un magnifique et immense jardin de l'Inde ou des Antilles, tant les plantes tropicales dont elle était plantée s'enlaçaient les unes aux autres, comme pour donner au regard qui se fixait sur elle le spectacle de toute une flore exotique. C'était en effet tout un continent de 10 pieds carrés, toute une Asie de poche. L'arbre que l'on a appelé le roi des végétaux, l'arbre de la science du bien et du mal, l'arbre né dans le paradis terrestre, et dont l'origine est incontestable puisque la feuille a servi à couvrir la nudité de nos premiers parents et que pour cette cause il a reçu le nom de figuier d'Adam, était représenté par ces 5 espèces principales. Le bananier du paradis, le bananier à fruits courts, le bananier de la Chine, le bananier à sparte rose, le bananier à sparte rouge. À côté de lui croissait l'héliconia, qui s'en rapproche par la longueur et la largeur des feuilles, puis le ravelania de Madagascar, représentant en miniature le fameux arbre du voyageur, où le nègre altéré trouve l'eau fraîche que lui refuse le ruisseau tari. le Strelitzia regina, dont la fleur ressemble à la tête d'un serpent radar et à une aigrette de feu, le balisier des Indes orientales, avec lequel on fabrique à Delhi des tissus aussi souples que l'étoffe de soie la plus fine, le costus, employé par les anciens dans toutes les cérémonies religieuses à cause de son parfum, l'engrais odorant de l'île de la Réunion, le zangibier de la Chine, lequel n'est autre que la plante qui donne le gingembre, enfin toute une collection en abrégé des richesses végétales du monde entier. Le bassin et le socle de la statue étaient perdus dans des fougères aux feuilles découpées comme un emporte-pièce et dans des lycopodes qui pouvaient lutter avec la mousse des plus fins tapis de Smyrne et de Constantinople. Maintenant, à défaut du soleil, qui ne sera que dans quelques heures le roi de l'horizon, cherchez à travers toutes ces feuilles, toutes ces fleurs, tous ces fruits, le globe lumineux qui descend de la voûte et qui, répandant ses rayons à travers une eau légèrement teintée de bleu, donne à cette petite forêt vierge la clarté sereine et mélancolique, les reflets doux et argentés de la lune. Vue du lit, cette petite serre était un spectacle adorable. Aussi, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la personne qui était couchée dans le lit et qui, appuyée sur le coude, tenait un livre de l'autre main, cette personne levait-elle les yeux au-dessus de son livre et laissait-elle errer ses regards au milieu des sentiers lilliputiens que traçait çà et là la lumière dans le pays enchanté qu'elle voyait à travers une glace comme à travers un rêve. Si elle l'aimait, elle allait chercher des yeux les rameaux fleuris, amoureusement enlacés, où elle voudrait poser son nid. Si elle n'aimait pas, elle devait demander à la vie luxuriante de cette magnifique végétation l'ineffable secret de l'amour dont chaque feuille, chaque fleur, chaque parfum dévoilait chastement et mystérieusement les premiers mots. Et maintenant que nous croyons avoir suffisamment décrit cet Éden inconnu de la rue d'Artois, parlons de l'Ève qui l'habitait. Oui, Ève est bien le nom que méritait Lydie, ainsi rêveusement accoudée et lisant les méditations de Lamartine, regardant à chacune des strophes, strophes parfumées, s'entr'ouvrir les boutons des plantes et continuant ainsi, dans la nature, le rêve commencé dans le livre. Oui, c'était une Ève véritable, rose, fraîche et blonde. Ève au lendemain du péché, laissant errer son regard sur tout ce qui l'entourait. Ève tremblante, inquiète, palpitante, cherchant anxieusement le secret de ce paradis où l'on sentait bien qu'elle avait été deux et où elle était tout attristée de se retrouver seule. Appelant enfin, par les battements de son cœur, par les éclairs de ses yeux, par les frissons de ses lèvres, où le Dieu qui l'avait fait naître, où l'homme qui l'avait fait mourir. Enveloppée comme elle l'était dans des draps de fine batiste, le cou entouré d'une palatine de duvet, la lèvre humide, l'œil en feu, la joue en fleurs, un sculpteur d'Athènes ou de Corinthe n'eût pas rêvé un autre modèle, un type plus complet et plus achevé pour une statue de Léda. Il y avait en effet de la Léda enlacée par le cygne, la rougeur amoureuse et la voluptueuse contemplation. En la voyant ainsi, l'auteur de la Psyché, cette Ève païenne, Canova, en eût fait un chef-d'œuvre de marbre qui eût détrôné Vénus Borghèse. Qu'aurais-je en eût fait quelque Calypso rêveuse, ayant derrière elle un amour caché dans un coin de draperie. Dante en eût fait la sœur aînée de Béatrix et eût demandé à être conduit par elle à travers les détours de la terre, comme il avait été conduit par la sœur cadette à travers les détours du ciel. Mais à coup sûr, poètes, peintres et sculpteurs se fussent inclinés devant la merveilleuse personne en qui résidait à la fois, par un incompréhensible mélange, la pudeur de la jeune fille, le charme de la femme, la sensualité de la déesse. Oui, la dixième, la quinzième, la vingtième année, l'année enfantine, l'année nubile, l'année amoureuse, ces trois années qui font la trilogie de la jeunesse, qui viennent chacune à son tour au-devant de l'enfant, de la jeune fille et de la femme, et qui, une fois dépassées, restent en arrière. Ces 3 années, comme les 3 grâces de Germain Pilon, semblaient faire cortège à la créature privilégiée dont nous essayons de tracer le portrait et effeuiller ensemble sur son front les fleurs au plus pur parfum, aux plus fraîches couleurs. Selon la manière de la regarder, elle apparaissait. Un ange l'eût prise pour sa sœur, Paul pour Virginie, Desgrieux pour Manon Lescaut. D'où lui venait cette triple beauté, incomparable, étrange, inexplicable? C'est ce que nous tâcherons non pas d'expliquer, mais de faire comprendre dans la suite de notre récit, réservant ce chapitre, ou plutôt le chapitre suivant, à la conversation de Madame de Marande et de son mari. Ce mari va entrer tout à l'heure. C'est lui que la belle Lydie attend dans une distraction si profonde. Mais à coup sûr, ce n'est pas lui que son vague regard cherche dans les demi-teintes de l'appartement et dans les pénombres de la serre. Il lui a cependant, d'une façon bien tendre, demandé la permission dont il va profiter de venir un instant causer avec elle dans son appartement avant d'aller se renfermer chez lui. Et quoi, tant de beauté, tant de jeunesse, tant de fraîcheur, tout ce que l'homme, arrivé à sa 25e année, c'est-à-dire à l'apogée de sa jeunesse, peut rêver de plus idéal, et ce qu'il ne rencontre jamais. Et quoi, tant de bonheur, tant de joie, tant d'ivresse, tous ces trésors appartiennent à un seul homme, et cet homme, c'est ce banquier, blond, frais, rose, pimpant, poli et spirituel, c'est vrai, mais sec, froid, égoïste, ambitieux que nous connaissons. Tout cela est à lui, comme son hôtel, comme ses tableaux, comme sa caisse. Quelle aventure mystérieuse, quelle puissance sociale, quelle tyrannique et implacable autorité ont pu lier l'un à l'autre ces deux êtres si dissemblables, en apparence du moins, ces deux voix si peu faites pour se parler, ces deux cœurs si mal faits pour s'entendre? Probablement nous le saurons plus tard. En attendant, écoutons les causer, et peut-être un regard, un signe, un mot de l'un de ces deux enchaînés nous mettra-t-il sur la trace d'événements encore cachés pour nous dans la nuit sombre du passé. Et tout à coup, la belle rêveuse crut entendre le sourd froissement des tapis dans la chambre précédente. Si léger que fût le pas qui s'approchait, le parquet craqua sous lui. Madame de Marande passa une dernière et rapide revue de sa toilette. Elle croisa plus étroitement sur son cou sa pelisse de cygne, elle tira plus avant sur ses poignets la dentelle de sa chemise de nuit, et voyant que tout le reste de sa personne était voilé d'une façon irréprochable, elle ne fit plus le moindre mouvement pour en changer la disposition. Seulement, elle renversa sur le lit son livre ouvert, leva un peu le front, de manière à ce que ce fût non pas le haut de sa tête, mais son menton qui plongea dans sa main, et dans cette posture, où il y avait encore plus d'indifférence que de coquetterie, elle attendit son seigneur et maître.